L'Esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle émission thématique qui sera consacrée à Raymond Poincaré et pour laquelle nous recevons Georges Valence. Georges Valence, bonjour. Quand je dis « nous », c'est François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et Lionel Zinsou, économiste franco-béninois. Georges Valence, vous êtes journaliste et écrivain, vous avez été directeur délégué de la rédaction de l'Express, vous êtes un spécialiste des relations franco-allemandes auquel vous avez consacré un livre que nous avions recommandé ici même, La petite histoire de la germanophobie, paru en 2013 chez Perrin. Vous avez écrit plusieurs biographies, celle de Valéry Giscard d'Estaing en 2011, pour laquelle nous avions eu le plaisir de vous recevoir, celle de Thiers en 2007 et celle du baron Haussmann en 2000. Et cette année, vous publiez donc une biographie de Raymond Poincaré chez Perrin. L'itinéraire de Raymond Poincaré est celui d'un fils de la Louve, un représentant de cette seconde génération de dirigeants de la Troisième République, né dans les dernières années du Second Empire, tous bourgeois de naissance, tous nourris de fortes études, tous laborieux, tous ambitieux, pour reprendre les mots de Jacques Chastenet. Raymond Poincaré est issu d'une famille aisée de la Meuse, qui lui donne une éducation soignée. Son origine lorraine est déterminante dans son parcours. Il vit l'invasion prussienne de 1870 comme un traumatisme et il développe une germanophobie dont vous nous direz à quel point elle était forte. Ce jeune homme brillant, passé par Louis le Grand et la faculté de droit, apprend le métier d'avocat dans le cabinet d'un ami de la famille, avant d'être repéré par une autre relation des Poincaré, le ministre de l'Agriculture, Jules Devel, qui l'engage comme chef de cabinet en 1886. Le Meusien ne quittera plus désormais la politique, il est élu député en 1887, en 1892 il devient rapporteur de la commission des finances, où il s'illustre par la maîtrise de ce domaine très technique. C'est un prudent, rattaché à la tendance des républicains modérés, laïque sans être anticlérical, libéral et d'une intégrité morale devenue proverbiale à une époque où l'intégrité n'était pas aussi bien partagée qu'elle l'est aujourd'hui. Tout l'oppose au radical Clémenceau qui ne cessera de moquer la pusillanimité de Poincaré qu'il qualifiera de « meusosaure ». Cette même prudence le guide pendant l'affaire Dreyfus où il ne rejoindra que tardivement le camp des soutiens de l'officier juif. Ministre des Finances à plusieurs reprises, il s'oppose à l'instauration de l'impôt sur le revenu. Il est finalement appelé en 1912 à former un gouvernement de républicains modérés par le président Loubet et devient président de la République en 1913. Il consacre le temps qui précède la Première Guerre mondiale à la construction d'une solide alliance avec le Royaume-Uni et la Russie face à la triple alliance formée par l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Le président est d'abord marginalisé par l'état-major pendant les premiers mois de la guerre, mais il nomme quatre gouvernements successifs afin de mettre un terme au conflit. Il ne se résout à confier le pouvoir à son vieux et impitoyable rival Clémenceau qu'en novembre 1917. Le tigre s'impose dans l'opinion aux dépens du président de la République Poincaré et récupère les lauriers de la victoire finale avant de s'illustrer comme le grand négociateur du traité de Versailles. La fin de la guerre ne marque pas l'aboutissement de la carrière de Poincaré, qui est appelé à former un gouvernement à deux reprises dans des situations difficiles. Il devient président du Conseil en 1922 pour régler le problème du non-versement des réparations de guerre dues par l'Allemagne. Il décide de l'invasion de la Ruhr pour réquisitionner sa production industrielle et ce coup de force ne donnant pas les résultats attendus, il est dénoncé par les puissances américaines et britanniques. Poincaré est rappelé une dernière fois au pouvoir pour faire face à une violente crise monétaire qu'il combat à la tête d'un gouvernement d'union nationale. Il acquiert sa réputation de sauveur du franc au prix de hausses d'impôts massives et par la mise en place d'un plan de rigueur qui met un coup d'arrêt aux effets nocifs de la spéculation. Il démissionne en 28 pour des raisons de santé et meurt en 34 sans avoir pu revenir une dernière fois aux affaires. Georges Valence, votre choix de consacrer une biographie à Raymond Poincaré est-il ancien ou récent? Autrement dit, faut-il le rattacher à un élément d'actualité? Ou vouliez-vous nous donner à connaître une présidence normale, confrontée à plusieurs situations exceptionnelles, la corruption, l'affaire Dreyfus, la guerre mondiale, la spéculation, le spectre de la ruine des rentiers à travers la crise monétaire? Faut-il lire votre livre comme un acte de confiance dans la politique, Que reste-t-il du poincarisme, supposé qu'on puisse le définir? Quelle est sa responsabilité dans le déclenchement de la Grande Guerre et comment expliquer le peu de place que Poincaré occupe dans la mémoire collective? Si on le compare à des figures comme Gambetta ou Clemenceau, c'est le traditionnel bouquet des questions par lequel je termine la présentation de ces émissions thématiques. Comme vous le savez, vous êtes libre d'en choisir une ou de n'en choisir aucune et de donner vous-même le point, de choisir vous-même le point de départ de notre conversation. Georges Valence.
Mais écoutez, ce qui m'avait convaincu de faire un livre sur Poincaré, c'est l'idée d'union nationale, qui effectivement se concrétise de plus en plus actuellement. Mais c'est vrai qu'on sentait que le pays, ces dernières années, que le pays en avait assez des petites batailles politiques, etc., politiciennes, et que les gens pensaient que ça serait bien si un jour on avait un gouvernement qui représentait à la limite presque toutes les tendances du pays. C'est exactement ce qu'a fait Poincaré à deux reprises. En 14, il a appelé à l'union sacrée. Il n'a pas réussi à la faire complètement, parce que les républicains ne voulaient pas, de gauche ou centre-gauche, ne voulaient pas que le gouvernement glisse trop vers la droite. Mais il a réussi à le faire quasiment en 26. La France est dans une situation monétaire catastrophique. Le franc s'effondre. Et il faut savoir ce que ça veut dire à l'époque. À l'époque, on est quelques années après la crise du mark. En Allemagne, le mark s'est effondré à tel point qu'un œuf a fini par valoir 1,6 milliard de marques. Quand une monnaie en arrive à cette situation-là, la société dans son ensemble est ébranlée. Et je pense que cette crise monétaire allemande, cet effondrement total de la monnaie, donc des valeurs, la transmission des valeurs dans les familles, etc., et tout, a provoqué le nazisme. Et je pense que Poincaré a sauvé la France des aventures d'extrême droite qu'elle aurait peut-être connues sans son action pour sauver le franc. Donc ça, c'est très important. Or, il l'a fait comment? Il l'a fait, et quand on lui a demandé de revenir au gouvernement, il a mis une condition, deux conditions. Un, les pleins pouvoirs. Deux, la constitution d'un gouvernement d'union nationale. Tout le monde est venu dans ce gouvernement, sauf les marxistes, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire le Parti socialiste et les communistes, les bolcheviques, comme on disait alors. Mais autrement, tout le monde était là, à tel point qu'il y avait dans son gouvernement 6 anciens présidents du Conseil, 6, dont lui. Il y avait Rio, Briand, etc. Et donc, imaginons qu'aujourd'hui, le président Macron appelle au gouvernement Jospin, Juppé, etc. C'est ça qu'il a fait. En disant, messieurs, la France est dans une situation extrêmement grave. Nous devons tous ensemble, essayer de la sauver. Et en plus, comme vous rentrez dans le gouvernement, au Parlement, vous devez soutenir le gouvernement. Voilà. Donc ça, je pense que quand j'ai lancé ce projet, c'est ça que je voyais. Je voyais quelqu'un qui a essayé, malgré tous ses petits défauts, mais qui a aimé la France comme une femme, comme on a dit à l'époque, mais c'est vrai, il aimait la France comme une femme, comme on peut aimer une femme, et il a vraiment fait tout pour le pays, malgré toutes ces petitesses dont on parlera sans doute.
Lionel Zinsou.
Oui, alors c'est une fantastique biographie de Clemenceau aussi, votre livre. Donc, qu'est-ce qui vous a prémuni de d'écrire une biographie du vrai héros de ce livre, au moins pendant les premières années? C'était en creux ce personnage qui s'oppose, mais à qui aujourd'hui on est tenté de donner raison sur à peu près tous les choix fondamentaux. Donc qu'est-ce qui vous a conduit à ne pas faire la biographie de Clemenceau?
D'abord parce qu'il y en a eu beaucoup, mais c'est pas ça. C'est que je suis pas d'accord du tout avec vous. Clemenceau s'est trompé tout le temps, sauf en 17. Sauf la guerre. Mais autrement, il s'est trompé tout le temps. Clemenceau, vous prenez... c'est un gars formidable, hein, je suis pas en train de dire que... Non. Mais, et puis surtout, c'est vrai qu'il faut souligner qu'un gars qui a eu cette capacité à remobiliser le pays, c'est fantastique. Enfin, la France lui doit sans doute en grande partie la victoire. Pas lui seul, hein, il y a aussi les soldats aussi. Donc la France lui doit quand même en grande partie sa victoire, c'est sûr. Mais pour le reste, il s'est trompé tout le temps. Clemenceau s'est battu pour la suppression du président de la République. Il disait même qu'en France, qu'il y a deux choses inutiles, c'est la prostate et la présidence de la République. Vous voyez ? Mais qui c'est qui s'est présenté en vain à la présidence de la République ? Clémenceau. Clémenceau s'est battu tout le temps contre le Sénat, en disant qu'il faut supprimer le Sénat. Qui est-ce qui est devenu sénateur ? Clémenceau. Alors, peut-être que Poincaré a des défauts, mais lui, au moins, a une ligne politique claire. On est d'accord ou pas dessus, hein ? Ça, c'est sûr. C'est pas un homme d'extrême gauche. Mais il n'empêche qu'il a toujours tenu la même ligne.
Marc-Olivier Padis.
Alors je continue sur Clémenceau, parce que effectivement,
la malédiction de Poincaré.
Absolument.
Non, mais on pense quand même à l'affaire Dreyfus.
Oui.
Sur l'affaire Dreyfus, on ne peut pas dire que Clémenceau ait eu tort sur toute la ligne. Et
non,
Poincaré...
Au début, rappelez-vous, au début, il n'était pas tellement Dreyfusard. Mais...
Comme beaucoup d'autres.
Il est devenu plus rapidement Poincaré.
Mon livre, ça ne consiste pas à faire le procès de Clémenceau. Hein.
Mais c'est juste pour vous faire réagir là-dessus. Donc, deux petites questions. C'est d'abord, est-ce que vous pouvez redire un mot sur Poincaré ? On voit sa prudence dans l'affaire Dreyfus. Et puis, la deuxième question, moi, je dirais plutôt, est-ce que ce n'est pas, comme on dit maintenant, en même temps, Poincaré et Clémenceau ? C'est-à-dire, justement, moi, ce qui m'a intéressé, impressionné dans votre récit, c'est le fait que Poincaré est capable, alors qu'il est président de la République, pendant la Première Guerre mondiale, d'appeler Clémenceau au pouvoir, alors que c'est précisément considéré comme un de ses adversaires, et que Clémenceau, qui, comme on le sait, avait la dent dure, a été particulièrement cruel avec lui à plusieurs occasions.
Oui, Jean-Jolence. Oui, là-dessus, vous avez raison, et je trouve que le grand moment de la vie de Clémenceau, de Poincaré, c'est quand il a choisi Clémenceau. De sa part, c'était vraiment très courageux, parce que Clémenceau n'arrêtait pas de se moquer de lui. J'ai déjà cité quelques exemples, mais c'était permanent. Et il savait qu'en mettant Clémenceau au gouvernement, il n'était plus rien. Que Clémenceau n'était pas du tout quelqu'un qui allait partager. En plus, c'est la constitution de la troisième. Donc, il savait qu'il s'enterrait lui-même. Il l'a fait quand même parce que il a dit, il a écrit, il a dit à l'époque, il y avait le choix. Soit on cédait devant l'Allemagne, c'est-à-dire avec une paix à la Caillot, une paix blanche au mieux, soit on se battait jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on pouvait perdre, hein. C'est pas parce qu'on se bat jusqu'au bout qu'on gagne. Donc, dans tous les cas, il a choisi ça pour la France. Et ça, c'est vrai. Il a sauvé la France deux fois. C'est beaucoup de la part d'un homme politique. Une fois en appelant Clémenceau, une autre fois, on l'a dit, en sauvant le franc, donc en sauvant la société française.
François Bujon de l'État.
Le début de notre conversation est très amusant, puisque c'est finalement effectivement la malédiction de Poincaré. On part de Poincaré et on ne parle que de Clémenceau. Ça a été son malheur pendant un temps. Ça a été le nuage qui a pesé sur sa carrière. Et pourtant, c'est un homme qui a fait d'autres choses que d'appeler Clémenceau en 1917. Il a fait deux comebacks extraordinaires en politique. Les comebacks, comme chacun sait, sont remarquables. Il a inspiré d'ailleurs les espoirs de quelques hommes politiques très contemporains de nous, comme Valéry Giscard d'Estaing, qui avait fait de Raymond Poincaré un de ses héros, en même temps que Louis XV, je ne sais pas lequel des deux, d'ailleurs, avait la préséance sur l'autre.
Le comeback de Louis XV n'est pas connu.
Mais d'autres, même M. Sarkozy était intéressé par le destin de Poincaré, etc. Mais finalement, quel est l'héritage de Poincaré ? Quelle est son actualité ? Vous dites très justement l'idée de l'union sacrée au moment où en France on se lasse de la politique politicienne traditionnelle et on se tourne vers l'union. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses dans son héritage qui font l'actualité de Poincaré ? Est-ce que par exemple sa laïcité modérée, éclairée, peut être un élément de cet héritage ? Est-ce que son sens du devoir, son abnégation, est-ce que sa probité très rigoureuse à laquelle tout le monde a toujours rendu hommage, donne un relief particulier à ce personnage qui lui conférerait aussi une actualité particulière.
Georges Balance.
Oui, on voit bien. D'abord, il faut se rappeler qu'à l'époque, la République n'était pas tout à fait honnête, souvent. Il y a eu beaucoup de scandales. Le Panama, mais il y a eu d'autres. Il y a eu beaucoup de scandales. Et à cette époque-là, déjà, il est apparu comme un homme probe. Sur sa rigueur
Poincaré
était proverbiale, déjà, absolument, dès l'époque. Et pas seulement dans la politique économique, on en reviendra, mais dans ce gouvernement. Parfois même, avec un peu, il exagère un peu, par exemple, il payait des timbres à la De Gaulle, il payait les timbres du courrier qu'il envoyait. Il le faisait de manière un petit peu voyante. Hein. Mais, bon, mais quand même, c'est comme ça. Je veux dire, comme avocat, il remboursait les gens quand il pensait que l'affaire avait été gagnée trop facilement, etc. Enfin, donc c'est un homme honnête, probe, qui avait vraiment cette... et ça, c'est, il me semble que ça peut être encore un exemple actuellement.
Sûrement. Mais dans ce personnage, moi, c'est ce qui m'a beaucoup intrigué dans votre biographie, vous cherchez des moyens de le rendre sympathique. Vous n'en trouvez pas. En réalité, il n'est pas sympathique. Il est renfermé sur lui-même. Il est froid. Il est timide, sans doute. Et finalement, ce personnage arrive à avoir une action politique, et notamment, je voudrais revenir sur son retour en 26, qui est moins connu, parce que les crises monétaires, c'est compliqué, que du coup... Alors, je pense que vous avez eu raison de rappeler tout à l'heure quel est l'environnement européen, quel est l'environnement international. C'est qu'on voit l'Allemagne s'effondrer à travers cette inflation, et en effet, comme vous l'avez dit, et comme d'autres l'avaient analysé de longue date, cet effondrement n'est pas sans rapport avec la montée, puis avec la victoire du nazisme. Mais dans ce contexte-là, et donc en faisant appel à ce gouvernement d'Union nationale, c'est pas l'Union sacrée, là, c'est l'Union nationale. L'Union sacrée, c'est 14, et l'Union nationale, c'est 26, avec ces 6 présidents du Conseil. Et effectivement, vous avez tout à l'heure esquissé une sorte d'équivalence avec la situation aujourd'hui, mais il y aurait en effet Raffarin, Juppé, Fillon, Villepin, Jospin, je crois que c'est à peu près tout, parce qu'il reste plus beaucoup de... Ah si, et Fabius, qui était, voilà, enfin, qui seraient tous dans le même gouvernement. Mais en 26, en dehors de cet acte politique fort, qui d'ailleurs suppose que les autres aussi aient compris la gravité de la situation, parce que sinon les petites rivalités font qu'on ne va pas participer à un gouvernement d'union nationale et on se met à l'extérieur et on fait son intéressant. En 26, quel est le train de mesure qui permette de sortir de la crise, et de quelle crise plus précisément?
Oui, bien, des mesures de rigueur absolument terribles, très fortes quand même. Par exemple, suppression d'une centaine de sous-préfectures, suppression de recettes fiscales, suppression de plusieurs milliers de postes de demoiselles des dactylos, qui étaient en général soit des, quelque chose qui ne me rappelle quelque chose, soit des parentes des députés, des ministres, soit des protégés, disons. Donc il a fait tout un ménage comme ça, mais surtout il a rétabli le budget. Voilà quand même quelqu'un qui a fait les quatre fois, depuis que la République est installée en France, la République, il y a eu 4 budgets, il y a eu 5 budgets qui ont été excédentaires, 5, ou équilibrés. 4 par Poincaré, 1 par Giscard d'Estaing, qui est sous De Gaulle, qui d'ailleurs se référait à Poincaré. C'est quand même une grande leçon. Je ne dis pas qu'il faille à tout prix faire de la politique budgétaire dure. Parfois, il faut relancer. Mais regardez, pour comprendre le personnage, la monnaie s'effondre. Bon, il s'agit de rétablir la monnaie. Il y a 2 hypothèses. Soit vous rétablissez en vous projetant dans le passé, c'est-à-dire en retournant au franc germinal, au franc Bonaparte, c'est-à-dire au franc or que les Français adoraient. Ça veut dire que c'est une déflation terrible. Bon, il l'a pas fait. Et il a fait une nouvelle monnaie basée sur l'or, rebasée sur l'or, le franc Poincaré. Et cette monnaie-là, elle a entériné une dévaluation de 80%. C'est absolument terrible. Vous voyez, il l'a fait. Ça, lui qui était l'homme de la rigueur, il a su aussi imposer une dévaluation monétaire qui permette de maintenir les exportations, de maintenir l'état du pays, etc. Et tout. Il l'a fait. Ça, et il l'a fait notamment en négociant secrètement avec les syndicats. Voilà cet homme présenté sans arrêt comme un homme d'extrême droite, qui reçoit la nuit le soir, pas à Matignon, hein, puisqu'à l'époque Matignon n'existait pas encore.
C'était l'ambassade d'Autriche-Hongrie.
Absolument, oui. C'était, c'est Laval qui était, je crois, le premier. Mais oui, donc, il a reçu Jouot, et il dit à Jouot, écoutez, expliquez-moi jusqu'à quel niveau de redressement du franc je peux aller sans casser les machines économiques. Ça, c'est intéressant.
Lionel Zinsou.
Bon, alors, donc on a compris que ce n'était pas une biographie de Clémenceau, mais est-ce que c'est une biographie d'Emmanuel Macron? Et vous l'avez écrite quand par rapport à l'envol du mouvement En Marche? Parce que on a quand même souvent l'impression, sur les thèmes de l'Union, sur le thème des républicains opportunistes, leur première appellation, et puis des républicains de gauche, on a quand même l'impression que, et c'est d'ailleurs très très intéressant, il incarne quelque chose, bon vous avez dit l'Union sacrée, l'Union nationale, mais qui est ce rassemblement d'une grande force centrale, qui a eu donc des succès importants et dans la guerre et dans le redressement économique, et jusqu'à quel point donc il y a l'ombre portée de Poincaré sur la présidence Macron. Il a d'ailleurs réussi jeune, parce que on voit toujours des photos d'un Raymond Poincaré âgé. Enfin, il est député à 27 ans, il est ministre à peine trentenaire, oui. Il a une carrière extrêmement rapide, donc au fond, alors qu'il a l'image d'un homme de la Troisième République plutôt âgé, il a été aussi un prince de la jeunesse à un moment. Alors, vous avez pensé à Emmanuel Macron à partir de quel moment dans votre écriture?
Mais écoutez, c'est très simple, j'ai rendu le manuscrit en décembre. Franchement, en décembre, qui pensait qu'on connaîtrait la vague maintenant? Non, je pense en revanche que, et je m'en félicite, je m'en vante, je pensais effectivement que la France avait besoin d'un coup de balai, un peu à la Poincaré. C'est pour ça que j'ai choisi le personnage. Et c'est jamais comme ça, tout hasard. Je me disais, c'est intéressant de voir comment il a fait pour sauver la monnaie, comment il a fait pour sauver l'économie, comment il a fait pour sauver le pays. Et justement, qu'est-ce que ça veut dire encore que le patriotisme? Parce qu'il y a un truc très important. Poincaré, c'est le patriote. C'est le républicain et le patriote. Mais le républicain aussi. On a parlé tout à l'heure, vous avez évoqué tout à l'heure, le problème de la religion. Ça, c'est intéressant. Voilà quelqu'un qui est laïque. Il le revendique sans arrêt. Il est catholique de formation, d'enfance, de jeunesse, mais de famille, mais il est laïque. Il est laïque, mais pas anticlérical. Et par exemple, il hésite longtemps avant de voter la séparation de l'Église et de l'État. Pourquoi? Pas pour faire plaisir au pape. Alors franchement, il n'allait jamais à l'Église et tout, sauf à la fin, mais bon, et tout. Et là, non, c'est parce que il s'inquiétait de savoir qu'est-ce que l'État pourrait dire si une religion était totalement indépendante. Intéressant, hein? Et ça aussi, ça m'a intéressé, de voir que lui a fait beaucoup de textes à l'époque en disant, attention, le concordat de Bonaparte n'est pas si mauvais que ça, puisqu'il permet à l'État de contrôler l'Église catholique. Et qu'une religion ne doit pas être comme ça, laissée en l'air. Pas la peine d'insister, vous voyez bien maintenant combien ce débat a d'actualité.
François Bujon de l'Étang.
Moi, je voulais en venir au rôle de Poincaré dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Vous y consacrez des pages extrêmement intéressantes au milieu de votre biographie, et un peu ambiguë d'ailleurs, parce que vous reconnaissez qu'il est difficile de faire le bilan de son rôle, mais ça interpelle un peu. D'abord parce qu'il a toujours été, il avait un goût pour les affaires étrangères, il l'a manifesté, il a toujours été un ardent partisan de la politique des blocs, cette politique des blocs qu'on incrimine aujourd'hui. Tous à peu près unis dans cette critique, comme l'une des causes de l'engrenage qui ont déclenché la Première Guerre mondiale. Mais ensuite, il était très russophile, il a fait plusieurs voyages en Russie, il en a fait un quand il était président du Conseil en 1912, il en a fait un autre surtout en juillet 1914, et on est interpellé par le fait qu'il était absent de France du 23 au 29 juillet, C'est-à-dire au moment de l'ultimatum austro-hongrois adressé à la Serbie. Les austro-hongrois ont d'ailleurs sciemment attendu qu'ils quittent Saint-Pétersbourg pour publier leur ultimatum. Et il n'est rentré à Paris que in extremis quand les jeux étaient faits. Mais beaucoup d'historiens, c'est le cas notamment de Christopher Clark, le professeur d'histoire à Cambridge, qui a écrit cet extraordinaire livre qui s'appelle « Le somnambule » sur le déclenchement. Vous le citez d'ailleurs dans votre propre biographie, porte un jugement sévère sur Poincaré, comme d'un homme qui, au plus mauvais moment, a encouragé les Russes en leur donnant littéralement carte blanche. Il porterait donc une responsabilité, et dans ce surnom terrible qui lui a été accolé par la suite, Poincaré la guerre, ceci l'a suivi finalement tout du long. Qu'en pensez-vous?
Oui, alors d'abord, Poincaré la guerre, c'est intéressant. C'est le cas, c'est peut-être le premier cas où on a une opération de propagande étrangère sur la France. Ce qu'on voit maintenant, paraît-il, aux États-Unis. Mais c'est que Poincaré la guerre, c'est un slogan qui a été lancé notamment par les bolcheviques, par les communistes. Or, c'est intéressant, les bolcheviques, quand ils ont pris le pouvoir en Russie, ils ont évidemment eu toutes les archives. Et ils ont cherché ça. Ils ont cherché les éléments qui montraient que Poincaré avait poussé les Russes à la guerre. Le fait qu'il n'ait rien publié, que Moscou n'ait rien publié, montre qu'ils n'ont rien trouvé. Alors vous me direz, ce n'est pas la preuve. Mais dans tous les cas, les Russes les bolcheviques ont fait un énorme effort pour incriminer le président français. Ils n'ont pas pu. Ils ont lancé cette bataille, cette guerre, enfin, psychologique de Poincaré la guerre. Vous vous rappelez, il faut le dire quand même, il y a l'humanité très impressionnante à l'époque. On voit Poincaré se promener, entre guillemets, avec l'ambassadeur des États-Unis dans un cimetière près de Verdun. Et il y a le soleil. Bon, il est en rictus, lui dit que c'est en rictus. Le journal a dit l'homme qui rit dans les cimetières. Très bien. C'était la propagande. Mais c'était diffusé à 100 000, des cartes postales à 100 000 exemplaires. Tout ça payé par Moscou. C'est une opération intérieure. Et pourquoi Moscou faisait? Il se moquait complètement de savoir s'il avait poussé les Russes et tout. C'est qu'à ce moment-là, les Russes s'étaient rapprochés des Allemands et que les Russes aidaient les Allemands contre Poincaré, qui était président du Conseil et qui voulait qui voulait que les Allemands payent.
Oui, c'est la question de réparation qui est une question.
Donc c'est vraiment une opération politique. Autrement, il n'y a pas eu de preuve que. Alors deuxièmement, le fait que qu'il soit là-bas, on peut quand même pas lui reprocher. C'est pas parce qu'il est là-bas qu'ils ont fait l'ultimatum. Il a quand même pas été fait par lui.
Mais évidemment pas, non.
D'accord. Non. Oui, mais quand il est là-bas. On peut regretter qu'il soit là-bas. Mais la preuve, c'est quasiment la preuve qu'il n'a pas voulu la guerre, au moins à ce moment-là. Parce qu'il n'était pas si idiot, il s'est là. Oui, donc il y a une campagne. Il n'y a pas de preuve comme quoi. Deuxièmement, juste avant, quand il est arrivé affolé quand même, à Paris, et c'est lui qui a écrit au roi d'Angleterre. Ils essayaient de mobiliser que l'Angleterre s'engage. C'est l'Angleterre qui a une part de responsabilité, une part, puisque l'Angleterre ne disait pas qu'elle s'engageait dans la guerre. D'ailleurs, tout le monde sait, qu'en 1939, c'est une des raisons qui a fait que les Anglais se sont engagés, parce qu'ils ne voulaient pas renouveler l'erreur de 14. Donc, et lui a écrit au roi d'Angleterre, au roi directement, pour dire, attendez, dites que vous allez, que vous ne savez pas faire, parce que c'est la seule chance qu'on ait de sauver la paix. C'est lui qui a fait cette campagne-là. C'est pas, non?
Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ça n'enlève rien au fait que depuis son yacht, il avait envoyé le 27 juillet 1914 à l'ambassadeur de France à Saint-Pétersbourg, le 27 juillet, un télégramme dans lequel il lui demande de dire au ministre russe des Affaires étrangères que la France est prête à seconder entièrement, dans l'intérêt de la paix générale, l'action du gouvernement impérial. Alors, monsieur paléologue a peut-être rajouté un dièse plutôt qu'un bémol de cette
tradition. Paléologue étant l'ambassadeur de
monsieur paléologue étant l'ambassadeur de France à Saint-Pétersbourg, très proche de Poincaré. Pardon.
Oui. Non, ceci étant, il est certain que, comme vous le disiez, la politique des blocs conduisait à la guerre. Parce que, regardez, la France, la position de la France était claire, elle était simple, difficile. C'est-à-dire que si jamais on paraissait lâcher les Russes, bien les Russes nous lâchaient, on était seuls. et là, on a été écrasé. Voilà. Donc, du coup, on était obligé de soutenir les Russes. La politique des blocs.
Marc-Olivier Badis.
Je voudrais poursuivre sur la guerre de 14, mais sur l'autre versant, c'est-à-dire la sortie de la guerre. C'est aussi tout un aspect très controversé, puisque Raymond Poincaré tient beaucoup à ce que l'Allemagne paye les dommages de guerre. Donc, traité de Versailles, etc. Les Britanniques sont très réservés. On connaît le texte de Keynes sur la folie que représentent pour lui les exigences de la France.
Et la c'est paix pas, carthaginoise.
Ouais. Ce n'est pas un point de vue isolé de Keynes. En fait, c'est vraiment la politique britannique qui consiste à dire et que l'économie allemande doit repartir et que la France doit baisser ses exigences. Et derrière les Britanniques, même les Américains, comme vous le rappelez très bien, finalement décident de soutenir plutôt l'Allemagne. Et du coup, la France se trouve isolée au moment où Poincaré décide l'invasion de la Ruhr pour essayer de récupérer le charbon et d'autres choses. Et finalement, cette politique est un échec. Mais ce qui est très intéressant, c'est que de même que vous avez montré que Poincaré, après avoir beaucoup hésité, a été capable de prendre une décision qui allait très largement à l'encontre de ses intérêts quand il a appelé Clémenceau au pouvoir, il y a différents moments justement dans cette affaire, où il a pensé en quelque sorte contre lui-même. C'est-à-dire, d'abord, quand il revient au pouvoir en 26, là, pour sauver le franc, vous avez dit qu'il fait un cabinet avec, disons, les grandes personnalités de l'époque. Dans ce cabinet, il prend bien soin de maintenir aux affaires étrangères brillant, pour bien montrer que... Et brillant, lui, est pour une attitude beaucoup plus, de conciliation avec l'Allemagne, le courant pacifiste, et ainsi de suite. Et donc, le fait de maintenir brillant, ça envoie un signe en disant « Je ne suis plus l'homme de l'occupation de la Ruhr, je change mon point de vue sur l'Allemagne. » Ça, c'est assez fort. Et puis, dans le fond, il va être obligé de renoncer au remboursement de l'Allemagne, alors qu'il a été un de ceux qui appuyaient le plus dans ce sens-là.
Oui, Georges Valence.
Ce qui est intéressant, c'est de noter que les réparations dues donc au traité de Versailles, c'était une décision de Clémenceau. Au moment du traité de Versailles, Poincaré était contre ce traité. Il avait raison. C'était un traité mal fichu. Hein, la preuve, c'est qu'on a dit aux Allemands, vous allez avoir des réparations formidables à payer, mais on vous dira plus tard combien. Bismarck, quand il a exigé de la France 5 milliards en 71, il a dit, voilà, c'est temps. Hein. Et si vous ne voulez pas, on continue la guerre. Est-ce que là, non? Alors que je pense que Clémenceau a très mal négocié la paix. Ça, il faut le dire aussi, dans les réussites de Clémenceau, il n'y a pas la paix. Alors, lui-même, après, il a appliqué un traité contre lequel il était. Alors, il y a deux choses. Au moment de la Ruhr, donc il a envahi la Ruhr, finalement, ça se passe plutôt bien. L'Allemagne capitule, quand même, donc on est en bonne position. Et c'est là qu'à mon avis, il a fait une des plus grandes erreurs de sa carrière. C'est que, au lieu... Il avait gagné. Et les Allemands étaient prêts même, au moins les grands industriels allemands, étaient prêts à coopérer avec les Français, directement, le patronat français, etc. Et tout. Le patronat français n'y tenait pas, parce que notamment, sur le thème, charbon-acier, sur le thème, on vous aide, etc. Et tout, exactement ce qui s'est fait avec Monet au lendemain de l'autre guerre. C'est que les patrons français et les syndicats français, au nom de la peur du chômage, etc. Et tout, ont refusé ça. Et on n'a pas pu faire ça. Et deuxièmement, Poincaré a commis une erreur tout d'un coup, ça marchait si bien, l'occupation, il y a eu quelques mouvements autonomistes en Allemagne. Il a vraiment cru que tout d'un coup qu'on pourrait réaliser l'annexion plus ou moins directe de la gauche du Rhin. Il a rêvé à un moment d'une politique française traditionnelle, celle de Danton. Et ça, c'est terrible. C'est-à-dire que tout d'un... Vous voyez, il a changé de politique. Hein. Et quand il s'était perçu que tout ça ne marchait pas, il est revenu en arrière, et là, il a rebasculé dans l'alliance anglo-saxonne. Et ça, c'est aussi un des points... Il ne croyait pas du tout, il avait peur de l'Allemagne, fondamentalement. Il savait que l'Allemagne restait une grande puissance, plus forte que nous. Et donc, il savait qu'on ne pouvait pas rester seul. Au lieu de, comme on l'a fait l'autre, après l'autre guerre, au lieu de faire une action de coopération avec l'Allemagne, il s'est dit non. Là, il a rebasculé vers une ambiance américaine et anglaise, sur quoi il avait raison. Parce qu'il faut quand même se dire aussi que l'Allemagne de 1926-25 n'est pas du tout l'Allemagne d'après l'autre guerre. Vous savez, d'abord, elle n'était pas vaincue, enfin, elle était vaincue, son armée était vaincue. Mais son armée est quand même restée là, son industrie était intacte, elle n'avait pas perdu un immeuble, ni une usine. Alors que nous, on a perdu des régions entières, avaient été ravagées. Donc il faut voir qu'on était, en fait, en position de faiblesse. Et les Allemands n'étaient pas du tout de gentils jeunes gens, qui étaient prêts à coopérer, comme tout. C'est ça qui est terrible, c'est que quand on est à tête d'un État, il y a aussi... l'état d'esprit du partenaire ou de l'adversaire. Alors, je pense qu'il n'a pas, quand même, il n'a pas... Ça, c'est un des points importants. C'est pas un homme d'imagination. Je pense qu'en 1914, ce qui a manqué, mais pas seulement la France, ce qui a manqué, ce sont des hommes d'État de haut niveau. Je pense que à ce niveau-là, lui-même, mais le tsar, les Anglais, les Allemands, n'étaient pas exact, et notamment les Austro-Hongrois, n'étaient pas de haut niveau pour dominer l'histoire. Ça, c'est sûr.
Cette histoire de l'annexion de l'autre rive du Rhin, qu'est-ce que c'est? C'est Danton? C'est le Lorrain? C'est simplement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire la certitude que l'Allemagne étant restée extrêmement forte et ayant encore tout son potentiel industriel, il fallait d'une manière ou d'une autre l'affaiblir et pouvoir en tout cas se protéger d'elle par cette annexion.
Oui, absolument, c'était vraiment la vieille idée, il faut absolument conquérir la frontière du Rhin. Et c'est vrai que la frontière du Rhin, à l'époque, après bon, la frontière du Rhin était quand même une protection militaire importante, aurait été. Mais bon, c'était un rêve.
C'est une des conquêtes de la Révolution, la rive gauche du Rhin. C'est évidemment une des grandes conquêtes des guerres de la Révolution. Et c'est celle à laquelle Napoléon a cherché à se dévouer, si j'ose dire. Il a cherché, pendant toutes les guerres contre l'Angleterre, à protéger la rive gauche du Rhin jusqu'à ce qu'il y renonce à son tour pour rendre la France aux Français, finalement, plus petite que la Révolution ne la leur avait léguée. S'inscrit-il dans cette tradition, véritablement? Avait-il compris cela? Puisque, par ailleurs, vous dites, et c'est presque la conclusion de votre très intéressante biographie, qu'il n'avait pas une vision très exacte des rapports de force intra-européens et que c'est par là qu'il a péché, finalement. C'est ce que vous dites. Et vous dites très justement, plus que les Cassandres, les peuples aiment les visionnaires. Et il n'en était pas un.
Briand était davantage un visionnaire. Oui, je rappelle quand même, pour sauver quand même l'image de Poincaré, c'est que la France, sous son gouvernement, sous le dernier gouvernement, c'est la France qui a patronné l'arrivée de l'Allemagne à la SDN. Avec évidemment Briand, mais le président du Conseil, c'était Poincaré. Donc quand même, là il avait compris. Il avait compris que... Et son obsession, c'était l'Allemagne. Et il faut dire qu'à l'époque, même au lendemain de la guerre, l'autre guerre, c'est la même chose. Qu'est-ce que les Français ont essayé de faire? De Gaulle a d'abord essayé en 45, a essayé de faire une politique à l'ancienne. Il a essayé de diviser l'Allemagne, etc. et tout. Quand il est revenu, quand il a vu que c'était pas possible, après il y avait quand même les acquis, justement, d'Adenauer et des Schumann, à ce moment-là, les Français ont enfin compris, les deux ont compris, parce qu'encore une fois, il faut pas croire que l'Allemagne, c'est par hasard non plus, c'est le nazisme et tout, hein, donc, c'est-à-dire que l'Allemagne était fondamentalement anti-française, entre les deux guerres, et même avant. Dans mon livre sur la germanophobie, il y a aussi une gallophobie terrible à ce moment-là en Allemagne, hein, où les Allemands étaient persuadés que la France était une puissance vieillissante, sans enfants, et qui allait d'un jour plus ou moins disparaître. Et ça, c'était quand même l'angoisse. L'angoisse des Français, c'est de savoir, c'est de se dire que les Allemands étaient une puissance sans arrêt montante, alors que nous, depuis Waterloo, on était une puissance descendante.
Lionel Zinsou.
Oui, sur la personnalité de l'homme, est-ce qu'il pourrait être un homme politique contemporain dans ses rapports avec l'opinion publique? Là, on est dans un système qui, pour nous, est assez singulier, où il n'y a pas de suffrage universel, évidemment, pour désigner le chef de l'exécutif. Il avait une personnalité que vous décrivez comme froide, muette. Il est muet très jeune. C'est un député qui met 18 mois à monter à la tribune et puis qui ensuite fait encore une pause de 18 mois avant de reprendre la parole à la tribune. Muet, froid, cassant, hautain. Quels étaient ses rapports avec l'opinion publique et aurait-il aujourd'hui la faculté d'être un homme politique moderne avec ces attributs-là de personnalité?
Oui, Georges Valence. Il faut ajouter aussi timide.
Oui.
Non, vous en faites un portrait extrêmement dur. Par exemple, il y a une scène fantastique. Il visite les tranchées. Et là, donc, on a dit aux soldats, vous savez, vous allez avoir un personnage qui va arriver, un personnage public, il faut être plus sympa, quoi. Hein, vive la France et tout, vive. Donc il arrive là, il monte ce truc, il va, et il reste comme ça, pas un mot. Il ne dit rien. Les soldats disent, ah, vive, rien. Il dit rien. Il repart. Et les soldats sont si poilus, ils jettent des cailloux contre sa voiture. Et il est avec son aide de camp, et il dit, Poincaré, il dit, je vois bien. Vous pensez que j'aurais dû dire un mot? Il dit oui, oui, peut-être quand même au moins un mot. Il dit, c'est comme ça. Moi, je ne suis pas du Midi. Je suis Lorrain, et chez nous, on cache nos sentiments. Et ça, c'est vrai. Or, c'est sûr que c'était pas, mais actuellement, regardez ce que fait le président Macron. Il fait un gros effort pour redevenir un président jupitérien.
Pour devenir Lorrain.
Je sais pas si, oui, pour devenir Lorrain. Non, mais il fait un gros effort comme ça. Il fait un gros effort. Il n'est pas dit qu'une personnalité comme celle de Poincaré, hein, en gros, dans une époque, dans une période où il s'agit de faire une politique assez dure et tout, ne finisse pas par plaire. Parce que finalement, les présidents normaux, ceux qui ont été sans arrêt dans les médias et tout, la réussite a été limitée. Et l'opinion, justement, s'est détournée complètement du parti de ce président normal. Donc ça veut dire que le pays aussi, peut-être, pourrait comprendre un personnage qui se dévouerait totalement honnête, qui se dévoue pour le pays, et peut-être avec une personnalité un peu renfermée.
Mais est-ce qu'il aimait les gens? Parce que il arrive à Louis le Grand, ça m'a beaucoup ému, parce que je suis arrivé dans le même internat, qui avait déjà ce caractère de caserne, enfin qui avait encore ce caractère de caserne. Et là, il décide qu'il ne fraternisera pas avec ses camarades. Il ne leur donnera pas le statut d'amis, parce qu'ils sont relativement sympathiques et travailleurs, qu'il leur donnera de l'amitié. Il y a quelque chose quand même dans sa personnalité qui l'enferme un peu en lui-même. D'abord, je me suis posé la question, vous l'aimez vraiment, Raymond Poincaré?
Bon, le problème, c'est pas d'aimer. D'abord, j'ai eu la même aventure à Mille Grands, avec même une différence avec vous, mais quelque chose de commun avec lui, c'est que je suis arrivé dans ce lycée avec l'accent vosgien, manque à même dents, hein, comme lui. Il devait avoir le même accent, et c'est terrible, vous savez. C'est terrible, parce que, quand vous dites ça, peut-être que les autres ne faisaient pas non plus tout ce qu'il fallait pour la primauté. Non, mais bon, non, mais... Non, oui.
Allez-y, Georges Valence.
Non, j'en prie.
Alors, François Bujon.
Non, j'allais dire, toujours pour faire suite aux questions de Lionel Zinsou, que cet homme sec a fait un mariage d'amour. Ce qui était rare à son époque, puisque les politiciens de la belle époque avaient d'autres pratiques, comme chacun sait, se mariaient tard avec des jeunes filles jeunes qui étaient très bien dotées. Voilà que cet homme, à l'âge très mûr, épouse une femme, divorcée d'abord et veuve ensuite, étrangère par surcroît. Je me souviens d'avoir surpris beaucoup de monde au moment où M. Sarkozy épousait Carla Bruni en disant qu'il n'était pas le premier président de la République française à épouser une Italienne. Raymond Poincaré avait été le premier. Et ce mariage d'amour discours dit quelque chose sur lui quand même. Il était d'abord, il avait des sentiments, il était courageux, il était capable de les exprimer de cette façon-là, et il était totalement indifférent au qu'en dira-t-on.
C'est vrai, c'est très émouvant son mariage. Il y a tout, comme vous dites, tous ces amis de l'époque, quand ils avaient fait une bonne carrière, sur le coup de 35 ans, ils épousaient une jeunette.
Plutôt, oui, riche, même plutôt doté, sur le coup de 40.
Doté,
oui.
Surtout. Lui, il tombe amoureux d'une femme plus âgée que lui, et ça arrive, à la présidence, plus âgée que lui, qui ne peut plus avoir d'enfant. C'est un choix aussi important, notamment à l'époque, à toutes les époques, c'est un choix important, et tout, et dans, à laquelle il reste très attaché. Vous avez vu, j'ai pas dit fidèle. Parce que grâce à Nicolas Poincaré, collègue journaliste, qui est le petit-neveu, qui est le descendant direct du mathématicien Henri Poincaré, qui était le cousin germain. Oui. Et Nicolas Poincaré m'a expliqué qu'il a découvert deux descendantes de Poincaré. Mais pas du tout autorisées. Hein.
C'est par la main gauche.
Oui, par la main gauche et après son mariage, apparemment. Donc voilà. Mais donc pour dire que c'est un homme extrêmement sensible. Mais franchement, ça compte la Lorraine, son pays. Ce ne sont pas des régions. Vous savez, des régions qui ont vu passer depuis deux millénaires des invasions sans arrêt, qui ont connu la guerre de 30 ans. Il faut savoir ce que c'est. Les Girouchiers, c'est tout près de chez lui. Hein, c'est ça. Donc tous ces gens-là, ils n'aiment pas beaucoup s'exprimer parce qu'ils savent que en général, ça leur retombe sur le nez. Donc il est comme ça. Mais autrement, il y a plein de traits de nièces, par exemple. Ses liens avec ses nièces sont émouvants. Ses lettres qu'il a envoyées à ses lettres, ses lettres détaillées qu'il écrivait, etc. Il était quand même chef du gouvernement ou chef de l'État. Eh bien, il prenait son temps, il écrivait. Est-ce que vous avez lu tel livre, etc. Et tout, ma chère. Vous voyez. Donc, c'était un homme comme ça. Et c'est pour ça que je persiste à penser que peut-être, même à notre époque, par contraste avec les habitudes un peu trop et tout, il pourrait plaire et correspondre aux besoins du pays.
Oui, vous montrez d'ailleurs dans votre livre que c'est un homme qui mène la bonne vie avant son mariage, qui ne néglige pas d'aller rencontrer des créatures peuvent un peu enjoliver son existence. Mais et puis vous parlez aussi des lettres qu'il envoie adolescent, qu'il envoie à ses amis, rester à son ami notamment, rester en Lorraine. Là, il y a quelque chose en effet de beaucoup plus chaleureux et de beaucoup plus sensible. Je voudrais qu'on dise un mot parce qu'on a parlé tout à l'heure de Clémenceau, célèbre malédiction de Poincaré, mais on a juste à peine évoqué Aristide Briand. Or évidemment, Briand joue un rôle très important. Quels sont ses rapports avec Poincaré?
Alors, ils sont longtemps très bons. Très très bon, et après ils sont détestables. Poincaré, quand Briand était chef du gouvernement et essayait de faire une alliance avec les Anglais, et y compris avec les Allemands, à ouvrir vraiment le jeu, il a vraiment tout fait pour saborder l'action. Ça n'a pas été la période la plus brillante de Poincaré. Mais après, c'est après ça qu'il est devenu chef du gouvernement, qu'il est redevenu chef du gouvernement. Et après, ils sont restés relativement froid, parce que, ils ont commencé vraiment dans l'amitié, et ils ont basculé dans la compétition politique aussi, et puis dans un désaccord de fond. Et c'est surtout pendant la Première Guerre mondiale que les choses se sont gâtées. C'est que le jour où Briand, qui n'était que député à ce moment-là, est venu voir le chef de l'État, et pour lui dire, je crois que j'ai une bonne filière, les Allemands me proposent, de Laeken, me proposent de le rencontrer, l'envoyé du Kaiser, de le rencontrer en Suisse. Alors ça, c'était terrible, parce que Poincaré a dit, mais attendez, ça va pas. C'est-à-dire que c'est une opération politique qui va être terrible. C'est-à-dire que, évidemment, les Allemands vont révéler cette rencontre, et quand on saura qu'une personnalité comme vous a rencontré l'envoyé du Kaiser, ça veut dire les Allemands expliqueront que les Français cèdent. Et le moral sur les armées sera terrible. Et ça, donc, et il a fait surveiller Briand. Là, il a perdu confiance. Il dit, ce gars-là, il est capable de lâcher. Il est capable d'accepter une paix blanche.
Comme quoi, il vaut quelquefois mieux ne pas être grisé par la communication, comme en l'occurrence, Briand l'a été. Marc-Olivier Padis.
Oui, comme on est un peu sur la personnalité de Poincaré, au moment de sa mort, Blum a écrit « Qu'est-ce qui l'avait empêché d'être un grand homme ?» Et ce qui retient l'attention dans votre biographie, c'est que, dans le fond, vous racontez cette histoire. C'est pas l'histoire d'un grand homme. C'est pas non plus, il n'y a pas de poincarisme. C'est pas une histoire des idées. On ne retient pas une doctrine de Poincaré. Pourquoi, à votre avis, Blum pouvait dire ça, c'est pas un grand homme? Est-ce qu'il y a un côté, le manque d'éloquence, quand on pense à cette période, on dit toujours l'éloquence parlementaire, la Troisième République, etc. Lui, même s'il a pris goût à la tribune progressivement, n'était pas un grand orateur.
Oui, mais ses discours étaient extrêmement bien pensés. C'est un orateur économique, disons, surtout. Hein. Mais justement, c'est intéressant. Pourquoi j'ai relu tous les articles, évidemment, de la presse de l'époque? Et j'ai trouvé cet article de Blum dans le journal de la SFIO. Alors, ce qui est intéressant, parce que s'il dit ça, c'est parce qu'il fait une grande louange de Poincaré. Or, il faut savoir que Blum était dans l'opposition totale à Poincaré. Donc, le fait qu'il ait fait un article très favorable, qui termine par ça, par un grand homme, c'est à peu près la même chose qu'on retrouve dans les mémoires, dans les notes de Gaulle. C'est intéressant, parce que d'une part, il dit c'est un gars bien, quoi. C'est un gars qui a aimé la France, c'est quelqu'un de bien. Mais évidemment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce n'est peut-être pas l'homme d'État. Peut-être, vous voyez, les hommes d'État, il y a eu qui? Il n'y a pas tellement en France. Donc, on peut lire de deux manières cet article de Blum. À l'époque, ça a été perçu comme un article très favorable à parce que c'est un grand hommage, quoi. Parce qu'on n'attendait pas ça d'un leader de la gauche, enfin intellectuel, disons moi.
François Bujon de Letton.
Et pourtant, enfin, tout ça est paradoxal, puisqu'il reste une source d'inspiration. Il a été l'inspiration d'Antoine Pinet, il a été l'inspirateur de Valéry Giscard d'Estaing, dans une certaine mesure aussi. Il reste quand même un des personnages de la Troisième République auquel on se réfère le plus volontiers et le plus souvent. Mais finalement, et votre livre d'ailleurs le montre bien, le jugement sur lui est nuancé. Quelle place occupe-t-il finalement? Quel est le jugement de l'histoire? Quelle place occupe-t-il dans le panthéon de nos grands hommes?
Comme on le disait, une place quand même qui était totalement rongée par le général de Gaulle. C'est-à-dire, quand vous avez... Mais quand même, il y a aussi une chose qui me frappe. Quand vous regardez, c'est le dernier grand républicain de la Troisième. Après... Quand vous regardez les jeunes, entre guillemets, auxquels il s'est affronté dans ces dernières années, eh bien, le bilan n'est pas formidable. Beaucoup même ont rallié Pétain. Hein? Donc, ce gars-là n'a jamais flanché. Un truc qu'on n'a pas souligné, c'est que si vous regardez l'histoire des ligues, au lendemain de la Première Guerre mondiale, eh bien, les ligues, c'est très simple. Hein, vous pouvez mettre une courbe comme ça. Vous mettez... Poincaré n'est pas au pouvoir. Les ligues montent. Poincaré arrive au moins, les ligues descendent. Je veux dire que, et ça c'est très net, hein, je veux dire, c'est très net. Jeannet le montre bien et tout. Oui, donc il a vraiment correspondu à quelque chose, c'est-à-dire qu'il c'était le républicain. Quand il était aux affaires, bien la droite n'était pas tentée de basculer dans les ligues pré-fascistes. Je veux dire, c'était la garantie de la République. Et moi, je trouve un des textes les plus émouvants de sa vie, c'est un discours qu'il a fait, je crois, à Carcassonne, je ne suis pas sûr. Il a dit, je suis républicain, je reste républicain, je suis frère de républicain, fils de républicain, républicain toujours et tout. C'est très, très fort. À l'époque, hein, parce qu'on est déjà dans une époque où des gens pensent que la République, vous voyez. Donc, il a sauvé peut-être la France des ligues fascistes.
Et au fond, enfin, cette qualité principale que vous l'attribuez, c'est d'avoir préservé la France de l'extrémisme de droite, absolument, voire de l'équivalent du fascisme ou du nazisme.
Absolument. Et comme la catastrophe n'est pas arrivée, on oublie.
Oui,
toujours.
Oui, oui. Non, mais c'est effectivement un peu comme une sorte de preuve négative, mais c'est intéressant. Lionel Zinsou.
Non, mais on comprend la remarque de Blum sur le fait que ce n'est pas un grand homme. C'est plutôt l'idéal type de quelque chose d'autre qui est ces grands argentiers de la République française qui ont imposé une image de rigueur, un idéal de l'excédent budgétaire, la stabilisation monétaire. Mmh. Évidemment, c'est un tout petit peu plus ingrat, mais effectivement, ça se retrouve à d'autres moments de l'histoire. C'est assumé par Pierre Mendès France, ministre de l'économie du général de Gaulle à la sortie de la guerre. C'est assumé par Antoine Pinet. C'est assumé par messieurs Rueff et Armand. Oui, il y a toute une filiation. C'est le Valéry Giscard d'Estaing du plan de stabilisation en 1963. Et on va voir, c'est l'archétype. On va sûrement avoir le poincarisme de M. Le Maire et de M. Darmanin. Mais disons que c'est une tradition de la rue de Rivoli à l'époque, du Bercy de l'époque. Et on peut retrouver du poincarisme chez chacun de ceux, même chez M. Balladur, enfin chez chacun de ceux qui ont incarné cette ligue. Et ça s'est révélé fondamentalement efficace. Enfin, sauver le franc, vous avez tout à fait raison, c'est quelque chose qui a préservé la société française, probablement notamment du fascisme. Donc c'est très très important, c'est ce qui a rebâti en 1945, c'est ce qui rebâtit aussi en 1958, et ce qui est d'ailleurs encore toujours d'actualité, c'est cette espèce d'idéal type. Mais cet idéal type est un peu différent de l'épopée des grands hommes. C'est pas tout à fait être le père de la victoire que d'être le père de la victoire du franc, vous voyez. Mais au fond, c'est quand même une grande tradition française.
Et puis, ça ne prête pas à des discours de la même nature que certains autres.
Oui, et puis en plus, Poincaré, justement, par son caractère quand même un petit peu renfermé, n'a pas créé de poincarisme, au sens il n'y a jamais eu de poincariste. Il y a eu, je crois, en 28, il y a eu 2-3 candidats députés qui ont demandé autorisation de mettre Poincaré sur leurs affiches. Mais ils ne supportaient pas ça. Il n'a pas voulu créer, il n'a jamais créé un parti, il n'a pas créé l'RPF.
Oui, il y avait en effet toute la latitude à plusieurs reprises de créer un parti.
Vous êtes Vosgien, hein?
Oui.
Il y a eu un seul président de Lorraine, vous rappelez, il s'appelait président de Lorraine, c'est Jean-Jacques Chavanche-Rébert, oui, qui sortait de ce moule. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très fort dans la tradition lorraine. À Bar-le-Duc, manifestement, on doit être resté poincariste.
Oui, mais enfin, Jean-Jacques Savard-Chabert était de Lorraine comme
Valéry Giscard d'Estaing. C'est l'exception, enfin, depuis les rois siégeant à Nancy au XVIIIe siècle. Mais oui.
Un mot, François Bugeaud.
Non, j'ai juste pour dire, faut-il en déduire de tout ce que nous venons de dire, alors que le mésosaure n'est pas une espèce éteinte, mais qu'elle a une descendance?
Eh bien, c'est ce que vous venez de dire. Oui, le mésosaure, c'est quand même une phrase formidable. Hein,
Faut l'expliquer un petit peu. Quoi. Oui, les dinosaures de la Meuse.
Oui, c'est ça. On est compte, comme méchanceté de la part de Clémenceau.
Ça, il a perdu la bataille de l'humour, hein, par rapport à Clémenceau. Ah, et bon, la bataille de la méchanceté.
Et de la méchanceté.
La méchanceté, il a quand même essayé de la livrer, mais on découvre tout ça, Georges Valence, dans votre biographie de Poincaré, qui a donc paru aux éditions Perrin et dont les références sont sur notre site. C'était donc L'Esprit public, une émission de Philippe Meyer réalisée par Luc Jean Reynaud, préparée avec Augustin Bernard Roudex et Mathilde Cadreau, avec aujourd'hui à la technique Pascal Bénard. La semaine prochaine, pour la dernière et même l'ultime émission de notre série thématique, nous recevrons Marc Andevelde et nous nous intéresserons à la question de l'économie des médias. J'espère donc vous retrouver pour cette ultime émission la semaine prochaine à la même heure sur cette même chaîne.